Je disais ce matin à André, ça faisait un peu plus de 15 ans que j'étais venu ici pour vous apporter un petit message de la part du Seigneur. Donc ça se trouvait en dessous, au rez-de-chaussée, parce que la dalle ici venait tout juste d'être coulée. Et je lui expliquais que j'avais pas de pupitre pour poser la Bible et mes feuilles, c'était juste sur un pupitre de musique, mais pas si moderne que ça, vous savez, les choses métalliques là. Et j'avais pas de quoi poser ma montre et tout ça, et puis le temps passe, et puis je voyais les jeunes, les frères et sœurs au fond du coin, et puis ils me voyaient tourner mes pages. Vous inquiétez pas, c'est écrit très gros, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Et je me disais, bien, ça fait un peu plus de 15 ans que cela est passé. Les jeunes se sont mariés, ils ont eu des enfants, les petits ont grandi, et les plus anciens n'ont pas pris une ride. Voilà. Ce que je voudrais partager avec vous ce matin est un peu, est un peu particulier. Que je vous explique un petit peu la genèse de ce partage de ce matin. Dans l'assemblée où je suis, notre frère, en début d'année, a fait toute une série d'informations, de messages, de prédications, qui s'est échelonné sur plusieurs dimanches. Et je dois dire qu'au travers de ces messages, j'ai été interpellé. Les jeunes diraient, j'ai été scotché, parce que ce que j'entendais, je l'ai pris un peu pour mon compte. Et le déroulement de ce partage de ce matin, vous le comprendrez assez rapidement. Et donc, pour moi, il est hors de question de faire le plagiat de la prédication de mon pasteur. De toute façon, je pourrais pas, il y en avait pour plus de 2h30. Donc, il va falloir faire court, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, ce qui m'a interpellé, c'est comment lisons-nous les Écritures? Alors, c'est pas comment est-ce qu'on le lit, etc., etc., mais il s'agit de, on lit la parole de Dieu, et qu'est-ce qu'on en retient particulièrement pour soi, comment est-ce qu'on la comprend, comment est-ce qu'on l'interprète, est-ce que des fois on ne fait pas de fausses suppositions, etc. Alors, donc l'enseignement, c'est quoi? C'est ce qu'on a reçu de quelqu'un, c'est ce qu'on a reçu de notre expérience personnelle, et c'est ce qu'on transmet aux autres. Alors, effectivement, ça peut être comme ce matin, on est ensemble, je vais vous donner un enseignement, mais ça peut être aussi dans les classes d'éducation des enfants, ce qu'on appelle les écoles du dimanche ou en semaine, donc les classes d'instruction pour les enfants. Mais c'est aussi nous, parents, quand on enseigne la parole de Dieu à nos enfants, et c'est aussi dans notre témoignage personnel qu'on peut avoir avec des inconvertis ou même entre nous. On peut très bien partager des choses, et en ce sens-là, on fait un enseignement. Et parfois avec un peu de temps et de compréhension, parfois une meilleure analyse, une meilleure connaissance, certains qui ont reçu cet enseignement ne comprendront pas ce qu'ils ont reçu parce que finalement, c'était pas ça. Alors effectivement, quand on donne un enseignement de la part du Seigneur ou par rapport à nos analyses qu'on fait des Écritures, on est tous de bonne foi. Je vois pas pourquoi on irait dire que Jésus, il n'est jamais mort sur la croix. Jésus n'est pas mort sur la croix, il est mort sur un poteau, comme disait notre frère. Jamais nous viendrait à l'idée de dire cela. Donc notre enseignement, il est toujours de bonne foi, mais parfois il est altéré par différentes choses. Donc, revenons à notre sujet de ce matin, nous lisons la Bible avec nos yeux d'occidentaux. C'est vrai que tout ce qui s'est passé dans la Bible, ça s'est pas passé en France, ça c'est sûr. Ça s'est même pas passé en Europe. Quoique à la fin, avec l'apôtre Paul, quand il est remonté, il a vu un peu le bas de l'Europe. Et nous interprétons et comprenons souvent les Écritures avec nos conceptions culturelles, avec nos conceptions spirituelles. Et aussi, on l'a vu encore ce matin, notre sœur qui lisait dans une autre traduction, suivant les traductions qui ont été faites, la personne qui a fait cette traduction, que ce soit Segond, que ce soit Darby, la Bible de Jérusalem, etc., chacun a traduit la parole de Dieu suivant ses conceptions, son environnement, sa vie, l'époque à laquelle aussi il vivait quand il a fait cette traduction. Alors, pour nous étayer un petit peu dans ce que je voudrais vous dire ce matin. J'ai choisi trois textes qui sont extrêmement connus de chacun. Et au travers de ces textes, vous allez voir qu'il y a des choses, des fois, que bah, finalement, moi, je me suis senti coupable parce que j'ai donné cet enseignement. Mais je me suis aussi senti victime parce que je l'avais reçu, cet enseignement. Alors, donc maintenant, je vais vous entraîner dans Luc. Alors, pour ceux qui ont une Bible, dans Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Donc, c'est l'histoire de Zachée. Tout le monde connaît cette histoire, hein. Jésus entra dans Jéricho, traversa la ville. Alors, un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmurèrent et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et j'ai fait tort de quelque chose. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Voilà, donc c'est un texte qu'on entend souvent dans les réunions dites d'évangélisation, là où on essaye de parler aux gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, d'un texte qui permet de leur ouvrir sur la grâce du Seigneur. Et c'est rarement développé comme ce matin, hein, en méditation, que ce soit pendant un culte ou une réunion. Alors, qu'est-il écrit dans ce texte que nous devons comprendre comme une vérité spirituelle? L'Écriture nous a pas laissé ces histoires pour nous faire plaisir, mais c'est pour nous apprendre la vérité, pour bien nous la faire connaître, cette vérité. Alors, quelle est la vérité que nous allons retrouver là-dedans? Alors, Zachée, qui était Zachée? C'était un percepteur des impôts de la ville de Jéricho. Ça, vous le savez tous. Et puis, il a souvent été accusé de vol de ses concitoyens. C'était un percepteur des impôts. Tout le monde pense qu'il devait se sucrer sur la soie des autres, comme on dit, parmi les jeunes. Et il est accusé de s'être caché dans un sycomore pour ne pas être vu. Alors là, on va faire un petit peu de botanique. Ici en France, nous avons une végétation qui est tout à fait merveilleuse, opulence. Dès qu'il tombe un peu d'eau, ça y est, ça part. Et en ce moment, je crois qu'on a tout gâté. Mais en Orient, c'est pas le cas. Alors pour ceux qui peut-être ont été en Orient, les arbres sont assez chétifs, pas beaucoup de feuilles, pas beaucoup de fleurs, et on va chercher puissamment dans les racines l'eau qu'on a besoin pour survivre. En particulier, dans l'état d'Israël, la végétation n'est pas luxuriante. Et si vous avez l'occasion de vous connecter sur Internet, vous frappez sycomore, vous allez avoir des photos et vous allez être surpris de ce qu'est un sycomore. Donc un sycomore, on appelle ça aussi un figuier sauvage. Donc c'est un arbre qui a un tronc assez petit et dont les bras partent dans tous les sens et dont les feuilles sont aux extrémités des branches. Donc Zachée, quand il est monté dans l'arbre, il ne pouvait pas être caché. C'est pas possible. Pourquoi il est monté dans l'arbre? Bah tout simplement, c'est qu'il était petit. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et en plus, dans une autre traduction, il y dit, il aurait bien aimé voir qui était Jésus, mais cela lui était impossible à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant, grimpa dans un figuier sauvage pour apercevoir Jésus qui passait par là. Voilà ce que nous dit la Bible. Il n'est pas écrit qu'il s'était caché dans l'arbre. Il n'a pas été difficile à Jésus d'apercevoir Zachée. De toute façon, je pense, alors là c'est moi qui le dis, c'est pas l'écriture, il devait être de coutume pour les petits-enfants, quand il y avait un événement qui passait dans la ville, certainement que ces petits-enfants-là aussi devaient grimper dans l'arbre. Donc c'était pas un arbre qui était très grand, et en plus c'était pour voir. Et si la végétation avait été trop luxuriante, trop opulente, il ne pouvait pas voir les personnes éventuellement qui étaient dans ce passage. Il est précisé de façon très explicite dans ce passage que Zachée cherchait à voir Jésus. C'est marqué au à partir du premier verset. Également, il s'est posté à cet endroit-là parce qu'il savait qu'il voulait le voir. Il savait que Jésus allait passer par là. Hein, la foule qui était autour de Jésus faisait un écran, et vu qu'il était petit, c'était un petit bonhomme, d'après ce que nous dit la parole de Dieu, hein, il n'avait pas d'autre possibilité que de se mettre en hauteur, donc de monter dans un arbre. Alors, toutes ces explications pour nous dire quoi? Bah, c'est que ce qui est marqué dans la Bible, c'est quelque chose de fiable. Finalement, quand on lit bien et que l'on comprend bien l'Écriture, on arrive à l'opposé de ce qui a été dit, entendu ou compris sur une même personne au même moment. Cette démarche de Zachée nous révèle sa foi et sa démarche de foi. Au verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Il voulait vraiment avoir un contact avec Zachée. Deuxième précision en ce qui concerne ce petit bonhomme. Verset 8, c'est marqué, mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors, c'est marqué, « Si j'ai fait du tort à quelqu'un. » Si, si, il n'y a que ça d'écrit. C'est pas parce que, on va dire, si j'ai fait quelque chose, qu'on le fait tout le temps. Et là, on pourrait penser que, finalement, il le dit parce que il a l'impression qu'il a fait son travail comme il fallait, mais si, par hasard, si, dans une certaine circonstance, j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Si ça avait été monnaie courante chez Zachée, à mon avis, il aurait été ruiné. Parce que déjà, il donne la moitié de ses biens, et en plus, s'il a fait du tort à quelqu'un, il lui donne 4 fois pour réparation. Alors effectivement, la réputation des publicains et des péagers, c'était durant l'occupation romaine, ils collectaient des impôts, ils collectaient des taxes, et pour les juifs de ce pays-là, c'était des collaborateurs. Ils étaient au service de l'ennemi, ces gens-là. Ils n'étaient pas admis, ils n'étaient pas admis dans la société juive que quelqu'un de leur peuple, de leur race, soit des agents des Romains, et donc finalement, ils étaient marginalisés dans la société juive. Alors c'est vrai que Jean-Baptiste, un petit peu plus haut, avait discerné que les publicains prélevaient bien plus qu'il n'aurait fallu. Alors c'est tout cela qui a amené finalement la réaction de la foule envers Zachée en disant « Mais Jésus, tu es rentré chez un publicain, tu es rentré chez quelqu'un de malhonnête, tu es rentré chez quelqu'un qui vole, c'est un voleur, c'est quelqu'un qui vole les siens. » Finalement, il n'en est pas le cas. Hein. C'est tout ça qui a fait que on a longtemps, souvent, pris Zachée pour quelqu'un qui voulait se cacher, et on a pris longtemps Zachée pour quelqu'un qui était un escroc et un voleur. Alors Zachée, ça veut dire pur en hébreu. Donc c'est vrai qu'un collecteur des impôts dont le nom est pur, ça peut faire réagir certains. Mais c'est ce que ça veut dire. Et moi, dites donc, pourquoi qu'on n'a pas attribué les mêmes défauts à un autre péager, Matthieu? Vous connaissez bien Matthieu. Finalement, on n'a pas dit que c'était un voleur. On n'a pas dit que c'est quelqu'un qui voulait se cacher. Et finalement, on en a fait un disciple. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur Zachée et sur un peu ce qu'on a transformé la lecture de la parole de Dieu, qui est toute simple, toute franche, et pourquoi on a déformé parfois certaines paroles. C'est pour ça que moi j'ai été victime de ce que j'ai lu ce matin, et j'étais aussi coupable parce que je l'ai annoncé aussi à d'autres. Alors, je voudrais vous noter quand même que tout de suite après, Jésus donne la parabole des mines, hein, et c'est marqué ensuite au verset 28, pour ceux qui ont encore leur Bible ouverte. « Après avoir parlé ainsi, Jésus prit les devants et monta vers Jérusalem. » C'est là où il allait souffrir, c'est là qu'il allait mourir pour nous. Donc finalement, l'empressement de Zachée à rencontrer Jésus, il avait bien de la chance et il a bien eu raison d'aller jusqu'au bout, parce que Jésus ne passerait plus jamais par Jéricho. Voilà pour le premier cas. Le deuxième cas, c'est aussi quelque chose que nous connaissons tous, qui n'a pas entendu parler de Nicodème. Nicodème. Alors, j'ai mis des petits post-it, c'est plus facile à trouver. Nicodème, donc chapitre Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Voilà. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Alors voilà. Nicodème est allé voir Jésus de nuit pour pouvoir lui poser des questions et avoir un entretien avec lui. Alors donc, dans ce livre de Jean, par trois fois, c'est rapporté que Nicodème était allé voir Jésus, et deux ou trois fois, suivant les versions, c'est spécifié qu'il est allé voir de nuit Jésus pour avoir une discussion avec lui, pour lui poser des questions sur la doctrine et sur ce que Jésus était venu faire dans ce pays. Alors, on a très rapidement conclu, à partir de cette observation, que c'était la preuve que Nicodème avait peur des autres. Il avait peur d'être vu dans sa démarche spirituelle. Nicodème avait une notoriété publique à défendre. Il fallait qu'il la préserve, cette notoriété publique. Il ne souhaitait pas qu'on le voie. Alors, c'est un peu ce qu'a affirmé un peu trop rapidement certains commentateurs de la parole de Dieu. Alors, on va faire de nouveau un petit voyage, on va aller en Israël. Donc ça se passe à Jérusalem. Et la durée du jour, que ce soit la saison hiver, printemps, été, automne, ça va de 10h à 14h. C'est la durée du jour. Et le coucher du soleil, c'est aux alentours de 16h45 l'hiver et 18h50 l'été. Donc la nuit vient très vite. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de voyager dans ces pays, il fait jour. Vous rentrez chez vous parce que vous avez oublié de votre sac, vous revenez dehors et il fait nuit. Donc, pas de transition. Là-bas, le coucher du soleil, ça va très, très, très vite. Vous avez le soleil, puis pouf, il est plus là. Il est derrière. Et il était aussi du temps de Nicodème, la tradition, c'était quoi? C'est quand on voulait se rencontrer, quand on voulait discuter, quand on voulait partager avec sa famille, avec ses amis, faire quelque chose, ça se faisait après la journée du travail. Et après la journée du travail, 18h30, boum, il fait nuit. Alors, cette tradition de pouvoir se retrouver à la fraîche, comme on dit, quand il fait plus frais, parce que la journée a été dure, il y a beaucoup de soleil, il fait chaud, c'est une tradition qui existait de ce temps-là. Et je pense que ce qui est écrit, c'est qu'il est allé le voir de nuit, point. C'est pas parce qu'il voulait se cacher, c'est pas parce qu'il voulait préserver son intimité, c'est pas parce qu'il voulait préserver sa réputation. Dites-moi, Dieu dans le jardin d'Éden, quand est-ce qu'il allait voir Adam et Ève? Le soir. Reprenez les textes de la Genèse. Le soir, Dieu allait rencontrer Adam et Ève pour avoir un moment de partage avec lui. Donc le fait de mentionner trois fois que Nicodème est allé voir Jésus de nuit, c'est presque aller à l'opposé de ce qui est écrit quand on le traduit par quelqu'un qui est timide, qui ne veut pas expliquer à tout le monde qu'il a envie d'avoir un contact avec Jésus. Alors, le Saint-Esprit nous mentionne au chapitre 2, je vous laisse les coordonnées, chapitre 2, versets 23, 24 et 25. Donc la totalité de Jésus était en ascension, mais c'était quelqu'un qui n'était pas dupe des apparences. Il se fiait pas à tous ces opportunistes. Et puis finalement, ces gens-là, ils voulaient simplement bénéficier des miracles, ils voulaient faire... Ils voulaient s'approprier un petit peu la réputation de Jésus, comme il y a parfois des foules qui suivent les vedettes, qui suivent les gens qui sont en avant. Et par contre, ils ne faisaient pas l'expérience de la nouvelle naissance. Et pour qu'entend, à Jérusalem, il y avait un homme, Nicodème. Il était différent des autres. Il était moins superficiel. Il était plus sérieux dans sa recherche. Il était plus profond et il ne s'arrêtait pas au miracle qu'il voyait. Comme tout le monde pouvait le voir, il voulait connaître le miracle de Jésus. Alors Nicodème, ça veut dire victorieux du peuple. victorieux du peuple. Il s'est démarqué, finalement, de ses contemporains, du peuple juif, des religieux, de l'opinion générale et de la pensée unique. Lui, le chef des Juifs, il a osé aller plus loin que les autres, plus loin que ceux qui demandaient des miracles. Il voulait venir vers Jésus afin de comprendre le miracle, le grand miracle. Alors, pour un peu confirmer ce que je dis en ce qui concerne la volonté de Nicodème d'aller voir Jésus, il y a été la nuit finalement, je pense que c'est après sa journée de travail, parce que finalement il avait des responsabilités au sein du Sanhédrin, au sein de son travail au milieu du peuple, de par sa notoriété, sa profession, si on peut le dire comme ça. Et pour quelqu'un qu'on a qualifié de poltron, quelqu'un qu'on a qualifié de quelqu'un qui voulait se cacher, un peu comme Zachée, à la fin du chapitre Jean chapitre 19, versets 38 à 40, alors ça on va le lire. Alors, 38 à 40, Jésus est mort, et le sabbat arrive, donc chapitre 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi. Il vint aussi. C'est merveilleux quand même. Et donc, il enleva le corps. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec des aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir les Juifs. Dites donc, c'est facile pour quelqu'un qui appartient à la classe religieuse des Juifs d'aller avec Joseph d'Arimathée réclamer le corps de Jésus, pour quelqu'un qui voulait se cacher. Est-ce facile de descendre Jésus de la croix avec Joseph d'Arimathée aux yeux de tout le monde, pour quelqu'un qui voulait se cacher? Est-ce facile de lui apporter des soins suivant la coutume? Et dites-moi, où sont Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, les autres, pour quelqu'un qui voulait se cacher? Et en plus, vous vous rendez compte, il a apporté avec lui pour embaumer le corps du Seigneur entre 32 et 33 kilos d'aromates et de produits. Une véritable fortune, plus d'un an de salaire. Donc pour quelqu'un qui voulait se cacher, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on a pu éventuellement enseigner. J'ai été victime, j'ai été aussi coupable, parce que j'ai enseigné que Zachée s'était caché dans le sycomore, et que Nicodème avait été voir de nuit parce qu'il ne voulait pas être vu. Maintenant, je voudrais vous apporter un autre aspect, non pas de ce que nous, on comprend de la parole de Dieu, c'est-à-dire que, finalement, on interprète les Écritures, comme je l'ai dit au début, avec son esprit occidental, par omission, par méconnaissance, parfois. Et maintenant, je voudrais aborder un point qui est un peu plus particulier, c'est-à-dire, quelle est notre réaction en fonction d'un cas bien particulier qui est décrit dans la Bible, mais que nous pouvons rencontrer tout autour de nous, dans notre famille, dans l'Église, dans notre milieu professionnel et dans notre voisinage. Alors, nous allons rentrer dans l'Ancien Testament et nous allons prendre le livre de Job. Nous allons aller au chapitre 2. Et verset 7 jusqu'au verset 10. Alors tout le monde connaît l'histoire de Job. S'il y en a qui connaissent pas l'histoire de Job, levez la main. On va la faire un petit peu comme à l'école. Donc tout le monde connaît l'histoire de Job. Donc voilà, je vais pouvoir passer plus rapidement alors. Voilà. Verset 7 du chapitre 2. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, « Mais tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs !» Mais il lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Alors nous allons parler de Madame Job. On a l'habitude, quand on ouvre les livres de Job, on parle de Job. Mais là, ce matin, je vais vous parler de Madame Job. Alors, elle avait épousé un homme intègre, droit, craignant Dieu, et il se détournait constamment du mal, selon le témoignage que Dieu lui donne dans ses passages. Donc le foyer de Monsieur et Madame Job, c'était un foyer qui respirait la foi et la crainte de Dieu. Job était, la partie en Angleterre. Job était l'homme le plus éminent de son époque. C'était aussi quelqu'un de très riche dans son pays. Alors je vous invite à relire le début du chapitre 1er, hein, du verset 1er au 22, mais on va lire, nous, à partir du verset 13. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Madame Job en arrive à dire à son mari « Maudit Dieu et meurt ». C'est sur ce fait que je veux attirer votre attention. Il y a des gens qui, des fois, ont des réactions, qui ont des attitudes, et nous, chrétiens, tout de suite, on catalogue cette personne en fonction de ses réactions, de ses attitudes, de la façon dont elle parle, de la façon dont elle réagit, et très rapidement, cette personne, on lui taille un costard. Si on peut dire ça, un peu comme les jeunes. Donc, on va essayer d'analyser un petit peu, et on va voir pourquoi Madame Job en est arrivée là. Alors, je disais, verset 13. « Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labourés, les ânes paissés à côté d'eux, les sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. » Hop, il n'y en a plus. « Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsque un autre lui vint et lui dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé le petit bétail, les serviteurs, et les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Les Chaldéens formés en trois bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a battu les quatre coins de la maison, elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Je suis venu, et je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, se prosterna et dit, « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai, l'Éternel a donné, comme vous connaissez bien cette phrase, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Alors quand le premier malheur est arrivé dans ce foyer, ce fut un coup terrible. On lui vole un millier de bœufs, on lui vole 500 ânes, c'est-à-dire qu'il y avait des ânes, des ânons. C'est terrible de perdre son outil de travail. Ça peut très bien nous arriver à chacun. On nous vole notre emploi. On nous vole ceux qui nous servent de subsistance. À peine la nouvelle arrivée, comme nous l'avons lu, un autre messager arrive. Monsieur Job, incroyable! La foudre est tombée et t'as plus, tes 7000 brebis, il n'y en a plus. Mais tu vois un petit peu la place de Monsieur Job. Et puis en plus, pour couronner le tout, une bande de malfaiteurs a volé tes 3000 chameaux. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la catastrophe. Et pour terminer le tir maudit dans cette direction, un quatrième messager arrive. Il leur informe de l'impensable. La chose que personne ne souhaiterait entendre. La chose la plus terrible pour ce père et cette mère, c'est ce que nous avons lu. Une tempête est arrivée, les murs de la maison se sont écroulés, et tous ses enfants sont morts. 7 garçons et 3 filles. Alors, comme toutes les mamans du monde, Madame Job a porté ses enfants 9 mois. 10 fois 9 mois. Pratiquement 8 ans où elle s'est consacrée à cette tâche sublime, merveilleuse, de créer un homme en son sein avec la participation du Seigneur. Alors, ces 10 enfants, elle les avait portés, enfantés, nourris, élevés, protégés, éduqués. Ces 10 enfants sont devenus des adultes et ils ont été munis aussi de l'esprit de famille. Ils avaient tous sans doute la crainte de Dieu qui leur avait été transmise par les parents, par Madame Job, par Monsieur Job. Et nous pouvons penser comme tous les parents, c'est-à-dire chrétiens, sauvés, le font. Même les enfants partis continuent à prier pour eux, à les soutenir dans leurs prières, demander à Dieu de les garder, de les préserver, qu'ils puissent faire des expériences avec lui, de les garder dans leur santé, dans leur travail, dans leur vie professionnelle. Mais ici, c'est 10 enfants de la même famille qui disparaissent le même jour. Qui peut mesurer la douleur de Monsieur et Madame Job? C'est une épreuve terrible. Mais une épreuve multipliée par 10. Une autre manière du XXe siècle, essayez de voir un petit peu la scène. Monsieur et Madame Job devant les 10 cercueils. Alors, ce dramatique crescendo des événements, ça peut se résumer comme ça. Il a perdu son emploi. Il a perdu ses moyens de déplacement. Il a perdu ses moyens de subsister. Il a perdu ses biens matériels. Il a perdu ses acquis. Il a perdu ses employés et aussi des collègues. Et il a perdu ses 10 enfants. Monsieur et Madame Job ont subi tout cela. Ils ont perdu tout cela. Mais ils ne savaient pas que Monsieur Job allait tomber malade. Et tout cela sans aucune raison particulière. Sans aucune explication de ce que Dieu, de ce que ce Dieu qu'il servait avec intégrité et fidélité. Alors pour nous qui connaissons la parole de Dieu, nous savons très bien que tout ce qui arrive à Monsieur et Madame Job, c'est ce qui s'est passé au sein du ciel entre Satan et Dieu. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la renouveler. On pourrait ici développer la compréhension de l'épreuve du juste, mais ce n'est pas le cas de ce matin. Si vous voulez avoir un début de méditation à ce sujet en ce qui concerne l'épreuve, le malheur, la maladie du juste, je vous invite à relire l'épître de Pierre et aussi le psaume 73, qui sont un bon début de recherche en sujet. Vous pourrez donc trouver par l'intermédiaire des analogies, etc., trouver d'autres passages dans les Écritures. Alors, Monsieur et Madame Job sont devant leurs dépouilles, les dépouilles de leurs enfants. Alors Job, il est complètement démoralisé, affligé, il n'en peut plus, il déchire son manteau, il se prosterne et il se jette à terre. Mais malgré cela, il se remet à la bénédiction de Dieu, il se remet à la souveraineté de son Seigneur, il la consomme, la confesse même de sa bouche, on l'a vu à la fin du passage. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Les jeunes de maintenant, ils diraient, waouh, ça c'est quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque. Non, mais vous avez vu ce qui lui arrive? Il a perdu son emploi, ses déplacements, ses bottes, son bétail, son moyen de travailler, ses enfants, et puis, Seigneur, je te bénis. C'est quelque chose de complètement inconcevable. Et le témoignage de Dieu nous dit un petit peu plus loin, en tout cela, Job n'a pas péché contre Dieu. Mais c'est un témoignage extraordinaire. C'est un exemple. C'est un modèle dans la souffrance. C'est l'apôtre Jacques qui nous invite à prendre cet exemple dans son épître. Et pendant tout cela, pendant toutes ces lectures, pendant tout ce que nous venons de voir, rien sur Madame Job. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas comment elle a réagi, on ne sait pas si elle a dit quelque chose, c'est pas relaté. Parce que la parole de Dieu n'a pas jugé bon de nous laisser quoi que ce soit au sujet de Madame Job. Rien qui ne méritait d'être écrit, rien pour notre instruction. Tout ce qu'on sait, c'est comment Job a réagi. Alors on ne sait pas comment Madame Job le jour des obsèques, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit, quelle a été sa réaction. On ne connaît rien de sa souffrance, c'est pas écrit. On ne sait même pas si elle a pleuré, si elle a gémi, si on ne sait pas ce qu'elle fait. On ne sait pas. Elle a tout simplement été dans l'ombre de son patriarche, un peu comme son Seigneur disait Sarah à propos d'Abraham. Alors, le temps a passé, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas. Et Job est tombé malade. Alors, c'était pas une petite grippette, hein. C'était pas un gros rhume, c'était pas une petite maladie de rien du tout. C'est visiblement une maladie qui mène à la mort. Alors, il est là, prostré dans la cendre, il souffre de partout, il souffre le martyr, il est frappé par le cancer de l'époque. Des pieds jusqu'à la tête, c'est marqué dans la parole de Dieu. En quelques jours, on ne le reconnaît plus. Et malgré cette épreuve, la cinquième, en peu de temps, Job reste intègre. Il ne pêche pas par ses lèvres. Et c'est ce que Dieu nous relate encore dans ses Écritures. Et Madame Job, bien sûr, elle est à côté de lui. Elle n'a plus que lui. Ses enfants sont morts, tous ses biens sont partis. Et elle assiste impuissante à l'évolution de la situation. Et là, nous arrivons au point qui nous a interpellés au sujet de Madame Job. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, chapitre 2, versets 7 à 10. Elle est auprès de son mari. Il est là sous ses yeux en train de souffrir. Il se gratte avec un tesson. Il est assis dans la cendre. Ce devait être difficile pour Job. Insupportable. Mais pour Madame Job, qu'est-ce que cela devait être insupportable? Être à côté de son mari, ne pouvoir rien faire, le voir décliner jour après jour, il va perdre sa santé. Et voilà ce qu'elle dit. Alors elle n'en peut plus. Tu demeures ferme dans la foi. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu continues de croire en Dieu. Mais ça va pas. T'es à côté de la plaque, mon Job. Et là, on l'entend. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'elle a dit, on ne sait pas ce qu'elle a fait, on ne sait pas ce qu'elle a subi, on ne sait pas comment elle a réagi. Mais là, elle réagit, et violemment. Mais maudit Dieu! Et puis tu vas mourir! Maudit Dieu et meurs! C'est exactement ce que le diable voulait ce qui se passe. Vous connaissez l'histoire? Atteins Job dans son corps et tu verras, il te maudira. Mais non, Job l'a pas maudit, Dieu. Il n'a pas maudit. Alors effectivement, c'est une parole qu'un croyant ne doit jamais dire. Nous sommes tous d'accord sur ce point, même quand on ne connaît pas, quand on ne comprend pas, quand on ne réalise pas ce qui nous arrive. Job le lui rappelle, de toute façon, un petit peu plus loin. On ne maudit jamais Dieu, l'autorité suprême, la majesté divine, le Père des esprits, le Dieu de toute chair, celui devant lequel nous devons nous prosterner, celui qui nous a fait entrer dans le monde, et c'est aussi celui qui, au jour fixé, nous dira « Retournez ». On ne maudit pas Dieu, son Créateur, son Sauveur, son Père. On ne le fait pas. On ne maudit pas les autorités établies sur la terre. On ne maudit aucun homme fait à la ressemblance divine, quel que soit cet homme. Paul le disait bien, « Bénissez et ne maudissez pas ». Jésus aussi disait « Faites du bien à ceux qui vous maudissent », etc., etc. C'est une femme qui vient de perdre ses enfants, c'est une femme qui vient de perdre ses biens, et elle est sûre, son mari va mourir. Et c'est cette souffrance excessive qui la pousse à dire ces choses qu'elle n'a jamais dites auparavant, et qu'elle ne dira jamais plus. Voilà l'histoire de Madame Job. Alors, l'histoire de Zachée, l'histoire de Nicodème, l'histoire de Madame Job, qu'est-ce que ça nous donnait un peu comme réaction à faire? Le récit de Zachée et de Nicodème nous sert d'exemple de ce qui était utile de bien lire et de bien comprendre ce que le Saint-Esprit a voulu nous laisser comme enseignement. Il faut être prudent dans nos affirmations et éviter de faire le contraire de ce qui est réellement écrit. Toute lecture des Écritures doit se faire avec une extrême lucidité. Il faut pas prendre pour argent comptant les commentaires bibliques. Il faut pas prendre pour argent comptant ce que je vous ai dit ce matin. Il nous faut revoir pour nous-mêmes certaines opinions sur les autres frères ou sœurs qui sont engagés dans l'œuvre du Seigneur, dans la vie sociale, dans un engagement économique et dans une entreprise commerciale. Il y a des professions qui n'inspirent pas confiance. Nous avons un percepteur pour les impôts. Vous avez les plombiers. Vous avez les dentistes. Vous avez les notaires. Vous avez les avocats. Vous avez les juges. Il faut pas généraliser trop vite. Il y a des professions qui sont par avance disqualifiées. Mais malgré les pressions et les obligations, il y a des chrétiens qui savent gérer leurs affaires et leurs responsabilités dans le respect de la parole de Dieu. Donc effectivement, par rapport à quelqu'un qui a une certaine profession, qui a une certaine tâche, qui a un certain environnement, rapidement, ce qu'il va dire, l'attitude qu'il va avoir, sera transformé par rapport à la réalité des choses. Des fois, on dit tel ou tel commentaire sur telle ou telle personne, alors qu'on ne connaît pas cette personne. Vous avez quelqu'un dans l'assemblée, c'est peut-être un ours, quelqu'un qui parle pas, semble qu'il fait la tête tous les matins quand on le croise. Finalement, si vous pénétrez un petit peu son foyer, si vous pénétrez un petit peu son intimité, vous apercevez que c'est un homme généreux, qui aime le Seigneur, qui élève ses enfants dans le calme, dans la joie, dans la crainte de Dieu. En ce qui concerne Madame Job, certains hommes ou frères, certains frères, ont parfois été injustement condamnés à des réputations ou à des peines, un peu comme Madame Job. Vous vous rendez compte, la parole qu'elle a dit, on dit pas ça, on dit pas à son mari, maudit Dieu et meurt. Alors ça peut être autre chose. Dans le cadre de nos assemblées, on a exprimé un peu trop vite tel sentiment ou jugement à l'encontre de tel ou tel chrétien. Sans connaître parfois les choses dont on parlait, on connaissait pas trop l'histoire, et puis on s'engage, on émet un sentiment, on émet un jugement, on émet une relation, quelque chose qui va pas. Parfois on connaissait même pas les intéressés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Que d'imprudence. Que de précipitation. Que de choses dites que l'on regrettera. Que de choses qu'on a aussi écrites. Mais le mal est fait. C'est trop tard. Et il sera conservé dans la mémoire. Il est très difficile d'effacer quelque chose qui est noir, quelque chose qui est blanc, il n'y a pas besoin de l'effacer. Quelque chose qui est blanc, on écrit dessus. Alors toutes ces choses se sont peut-être passées sans que nous en rendions compte. Des fois par des conversations, par des paroles qu'on a peut-être dit sans le vouloir. On leur a fait une fausse réputation à tous ces gens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on leur a taillé un costard. Et le costard, ils l'ont pour tout le temps. La tentation est là de faire trop rapidement une caricature. La façon de voir, la façon de comprendre, la façon de raconter, la façon d'exprimer les choses. En s'appuyant sur une lecture rapide ou en ayant une mauvaise interprétation de l'écriture, on peut rapidement être amené à dire de un tel ou une telle, il a fait ceci, il a fait cela, c'est pas bien, c'est écrit comme ça, c'est pas écrit comme ça. Vous vous rendez compte, sa réaction, c'est pas spirituel ce qu'il a fait, c'est pas spirituel ce qu'il a dit. Qui n'a jamais entendu parler de ce percepteur d'impôts qui volait ses concitoyens à Jéricho? Qui n'a jamais entendu parler de ce rabbin de Jérusalem qui était peureux et soucieux du qu'en dira-t-on? Qui n'a jamais entendu parler de la femme indigne de Job? Il ne faut pas lire trop rapidement, glisser sur les mots et leur faire dire ce qu'ils n'ont jamais dit. Il faut comprendre mieux tous ceux qui souffrent autour de nous, dans nos assemblées, dans nos contacts au travail, dans nos familles. Combien même viendra-t-il à penser ou à dire des paroles excessives, un peu comme Madame Job? Combien même permettra-t-il à douter de ce qu'ils ont confessé, de leurs expériences passées, à oublier la grâce du Seigneur? Et pour conclure, je vous inviterai à dire et à relire Job au chapitre 6, verset 14. Je vous laisse ça sur votre cœur. Job Vous lirez ça ce midi à la maison. Laissez faire un petit peu les choses, n'ouvrez pas votre Bible, lisez-le chez vous. Job, chapitre 6, verset 14. C'est la réhabilitation de Madame Job par son mari. Voilà. En conclusion, sur ce que j'ai pu partager avec vous, j'espère que j'ai pas été trop long. Il faut faire attention parce qu'il y a ce que Dieu veut et peut faire au travers de nous, dans notre enseignement. Mais n'oublions pas, il y a aussi ce que Dieu peut faire sans nous. Gardons toutes ces choses dans nos cœurs et nos pensées. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère ne pas avoir été trop négatif avec vous ce matin. Mais moi, j'ai été tellement frappé par ces suites d'enseignements que j'ai voulu le faire partager avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni.